présente Circé de Madeleine Miller, lu par Léo Vaniro. Pour Nathaniel. Chapitre 1. Quand je suis née, le mot désignant ce que j'étais n'existait pas. Ils m'appelèrent donc nymphe, présumant que je serais comme ma mère, mes tantes et mes milliers de cousines. Moindres que ceux des déesses mineures, nos pouvoirs étaient si modestes qu'ils garantissaient à peine notre éternité. Nous parlions aux poissons et soignions les fleurs, cajolions nuages et vagues pour en extraire les gouttes d'eau et de sel. Ce terme de nymphe englobait notre futur en long et en large. Dans notre langue, il ne signifie pas uniquement déesse, mais aussi jeune mariée. Ma mère était l'une d'entre elles, une naïade, gardienne des fontaines et des ruisseaux. Elle attira l'attention de mon père alors qu'il était en visite au palais de son père à elle, Océan. À cette époque-là, Hélios et Océan dînaient souvent à la table de l'un ou de l'autre. Ils étaient cousins et avaient le même âge, même si cela ne se voyait pas. Mon père resplendissait tel le bronze tout juste forgé, alors qu'Océan était né avec des yeux chassieux et une barbe blanche lui arrivant à la taille. Cependant, ils étaient tous deux des titans, et préféraient leur compagnie mutuelle à celle de ces nouveaux dieux glapissants de l'Olympe qui n'avaient pas assisté à la création du monde. Le palais d'Océan était une véritable merveille, construit sous terre, au plus profond de la roche. Ses salles aux hautes voûtes étaient dorées et les dalles de marbre du sol polies par des siècles de pas divins. Dans chaque pièce, on entendait le bruit léger du fleuve Océan, source de toutes les eaux fraîches du monde, si sombre qu'il était impossible de dire où il finissait et où commençait la roche-mère. Sur ses rives croissaient de l'herbe et des fleurs gris pâles, mais aussi les innombrables enfants d'océan, naïades, nymphes et dieux fleuves. Lisses et brillants comme des loutres, riant, le visage animé dans la pénombre, ils se passaient des gobelets dorés et s'adonnaient à des joutes amoureuses. Au milieu, éclipsant toute cette beauté immaculée, trônait ma mère. Sa chevelure était d'un brun chaud, chaque mèche si étincelante qu'elle semblait éclairée de l'intérieur. Elle avait dû sentir le regard de mon père, brûlant comme les rafales torrides d'un brasier. Je me la représente en train d'arranger sa robe afin qu'elle retombe juste comme il fallait sur ses épaules, de tremper ses doigts scintillants dans l'eau. Je l'ai vue pratiquer un millier de tours semblables des milliers de fois. Mon père s'y laissait toujours prendre. Il pensait que le monde s'agençait naturellement pour le satisfaire. « Qui est-ce ? » avait-il demandé à Océan. Océan, à qui mon père avait déjà donné de nombreux petits-enfants aux yeux d'or, était ravi à l'idée qu'il y en ait encore davantage. « C'est ma fille, Persée. Elle est à toi si tu le désires. » Le lendemain, mon père la trouva près de sa piscine naturelle, sous une cascade du monde d'en haut. L'endroit était magnifique, rempli de narcisses à la floraison abondante, entrelacées de branches de chêne. Il n'y avait ni boue ni grenouille visqueuse, juste des pierres rondes et propres qui laissaient place à de l'herbe. Même lui, qui n'était guère sensible aux subtilités des étangs des nymphes, admira ce lieu. Ma mère savait qu'il allait venir. Elle avait beau être frêle, elle était aussi habile, l'esprit plus acéré qu'un pieu. Elle comprit où, pour quelqu'un comme elle, se trouvait le chemin vers le pouvoir, et qu'elle ne l'atteindrait pas en enfantant des bâtards et en se dévergondant sur les bords d'une rivière. Lorsqu'il se présenta, auréolé de sa gloire, elle lui rit au nez. « Coucher avec toi ? Et pourquoi ?» Bien sûr, mon père aurait pu prendre ce qu'il désirait. mais Hélios se flattait du fait que toutes les femmes, servantes comme nymphes, le rejoignaient de bon cœur dans son lit. Ses autels fumaient des preuves de ses accouplements, des offrandes de mère au gros ventre et d'heureux enfants illégitimes. « Ce sera le mariage, » ajouta-t-elle, « ou rien. Et si tu choisis de m'épouser, sois sûre d'une chose, tu pourras avoir les filles que tu veux dans les champs, mais tu n'en amèneras aucune à la maison, car je serai la seule à régner dans ton palais. » Des conditions, des contraintes. Voilà qui était nouveau pour mon père, et les dieux n'aiment rien tant que la nouveauté. « Marché conclu !» répondit-il en lui donnant un collier pour sceller leur accord, un de ceux qu'il fabriquait lui-même en perles de la plus rare des ambres. Plus tard, à ma naissance, il lui en offrit un deuxième rang, puis un autre à celle de chacun de mes trois frères et sœurs. J'ignore ce qu'elle chérissait le plus, les perles lumineuses elles-mêmes ou l'envie de ses sœurs lorsqu'elle les portait. Je crois qu'elle aurait pu continuer à les collectionner éternellement, jusqu'à ce qu'elle pèse autant sur son cou qu'un joug sur celui d'un bœuf, si les dieux majeurs ne l'avaient pas arrêtée. Ils savaient désormais ce que nous étions tous les quatre. « Tu peux avoir d'autres enfants, » lui annoncèrent-ils, « mais pas avec lui. » Sauf que les autres époux n'offraient pas de perles d'ambre. C'est la seule fois où je l'ai vu pleurer. À ma naissance, une tante, je vous épargne son nom parce que mon récit est rempli de tantes, me lava et m'enveloppa de linge. Une autre s'occupa de ma mère, lui repeignit les lèvres en rouge, releva ses cheveux avec des peignes d'ivoire. Une troisième alla à la porte pour laisser entrer mon père. « Une fille !» lui annonça ma mère en fronçant le nez. Toutefois, cela ne dérangeait pas mon père d'avoir des filles, avec leur tempérament doux et leur teint doré comme les olives fraîchement pressées. Hommes et dieux payaient au prix fort l'opportunité d'avoir des enfants de leur sang, et l'on racontait que le trésor de mon père rivalisait avec celui du roi des dieux en personne. Il posa sa main sur ma tête pour me donner sa bénédiction. « Elle fera un beau parti, » déclara-t-il. « Beau à quel point ?» voulut savoir ma mère. Pouvoir m'échanger contre quelque chose de plus précieux serait peut-être une consolation. Mon père réfléchit tout en me caressant les cheveux et en examinant mes yeux et la courbe de mes joues. « Un prince, je crois. »« Un prince ? Tu ne veux pas parler d'un mortel ?» La révulsion se lisait clairement sur les traits de ma mère. Quand j'étais petite, j'avais un jour demandé à quoi ressemblaient les mortels. Mon père avait répondu « On peut dire qu'ils ont la même apparence que nous, mais seulement dans la mesure où le ver de terre a la même apparence qu'une baleine. » Pour ma mère, c'était encore plus simple. À des sacs de chair avariés et féroces. « Elle épousera sûrement un fils de Zeus, » insista-t-elle, s'imaginant déjà attablée à des banquets sur l'Olympe, assise à la droite de la reine Héra. « Non !» Ses cheveux ont des mèches de différentes couleurs, comme le pelage d'un lynx. Et son menton, il a un aspect pointu des moins attrayants. Ma mère n'essaya pas d'argumenter. Comme tout le monde, elle connaissait les histoires à propos du mauvais caractère d'Hélios quand on le provoquait. Il a beau briller d'un éclat doré, n'oubliez pas qu'il peut brûler. Elle se leva. Son ventre s'était effacé, sa taille resserrée, ses joues étaient redevenues fraîches et d'un rose virginal. Si tous ceux de notre espèce se rétablissent vite, elle était encore plus rapide, une des filles d'océan qui pondent des bébés aussi facilement que des œufs d'Olympe. « Dans ce cas, faisons-en une qui soit plus réussie, » conclut-elle. Je grandis vite. Ma toute petite enfance fut l'affaire de quelques heures, mes deux premières années d'à peine quelques moments de plus. Espérant gagner les faveurs de ma mère, une des tantes resta et m'appela Circé, faucon, à cause de mes yeux jaunes et de l'étrange son furtif de mes pleurs. En revanche, quand elle s'aperçut que ma mère ne remarquait pas plus ses services que le sol qu'elle foulait, elle disparut. « Mère, » dis-je, « tante est partie. » Ma mère ne répondit pas. Mon père s'en était déjà allé sur son char au milieu des cieux, et elle tressait des fleurs dans ses cheveux, se préparant à rejoindre ses sœurs sur leurs rives verdoyantes par les voies secrètes de l'eau. J'aurais pu la suivre, mais j'aurais alors été obligée de rester assise toute la journée au pied de mes tantes pendant qu'elles cancanaient sur des sujets que je ne comprenais pas et qui ne m'intéressaient guère. C'est pourquoi je restais. Le palais était sombre et silencieux. Voisin de celui d'Océan, il descendait très profond dans la roche sous terre et ses murs étaient en obsidienne polie. Pourquoi pas ? Ils auraient pu être constitués de n'importe quel matériau au monde, marbre rouge sang d'Égypte ou baumier d'Arabie, si mon père en avait seulement exprimé le souhait. Néanmoins, il aimait la façon dont l'obsidienne reflétait sa lumière et dont sa surface lisse s'embrasait sur son passage. Bien sûr, il n'avait pas prévu à quel point il y ferait sombre après son départ. Mon père n'avait jamais été capable d'imaginer le monde sans lui. Dans ces moments-là, j'étais libre d'agir à ma guise, allumer une torche et courir pour voir les flammes sombres me suivre, m'allonger à même le sol, en terre douce, et y creuser de petits trous avec mes doigts. Il n'y avait ni larves ni vers, même si je n'avais pas conscience qu'ils pourraient me manquer. À part nous, rien ne vivait dans ce palais. Le soir, au retour de mon père, le sol ondulait comme le flanc d'un cheval, et les trous que j'avais creusés se comblaient d'eux-mêmes. Peu après, ma mère réapparaissait avec son parfum de fleurs. Elle courait lui dire bonjour, et il la laissait se pendre à son cou, acceptait le vin qu'elle lui offrait, puis s'asseyait sur son grand trône d'argent. Je ne le quittais pas d'une semelle. « Bienvenue, père, bienvenue à la maison !» Tout en buvant son vin, il jouait aux dames. Personne n'était autorisé à jouer avec lui. Il disposait les pions de pierre, retournait le damier et les replaçait. Ma mère prenait sa voix la plus mielleuse. « Tu ne viens pas te coucher, mon amour ?» Elle tournait sur elle-même devant lui, exhibant sa silhouette appétissante telle de la viande grillant sur une broche. Le plus souvent, il abandonnait alors sa partie. Mais parfois non. Et c'étaient mes moments préférés, car ma mère partait en claquant la porte en bois de mire derrière elle. Au pied de mon père, le monde entier semblait fait d'or. La lumière arrivait de partout à la fois, de sa peau jaune, de ses yeux chatoyants, des éclairs de bronze que lançaient ses cheveux. Sa chair émettait une chaleur de brasero et je me pressais aussi près de lui qu'il le permettait, pareil à un lézard sur les rochers en plein midi. Ma mère racontait que certains dieux mineurs supportaient à peine sa vue, mais j'étais sa fille, issue de son sang, et je contemplais son visage si longtemps que, quand je détournais la tête, il était encore imprimé dans mon cerveau et se reflétait sur le sol, les murs brillants, les tables marquetées et même sur ma peau. « Que se passerait-il si un mortel te voyait dans toute ta gloire ?» lui demandai-je un soir. « Il serait transformé en cendre en une seconde. »«
Et si un mortel me voyait, moi ?»
Mon père sourit. J'écoutais le bruit des pions qui bougeaient, le son râpeux et familier du marbre contre le bois.
Ce mortel pourrait se considérer comme chanceux.
Je ne le brûlerai pas ?
Bien sûr que non.
Pourtant, mes yeux sont pareils aux tiens.
Non, regarde.
Il fixa une bûche à côté de la cheminée. Elle rougit et s'enflamma avant de retomber sur le sol, réduite en cendres.
Et ceci est le moindre de mes pouvoirs. Peux-tu en faire autant ?
Je lorgnai ces bûches toute la soirée. J'en étais incapable.